info sur VOA Afrique.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue dans l'Amérique et vous. Ce soir, nous abordons la dimension raciale dans l'affaire de deux drames ici aux États-Unis qui avaient alimenté les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020 dans tout le pays. Eric Manelakidza en votre compagnie, à la mise en onde de Lionel Onanila Gariba. Encore une fois, bienvenue à l'écoute. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Marlene Sefok de Rwandune Vassili. Bonsoir.
Bonsoir.
René Lec est analyste politique. Il nous rejoint depuis Dakar au Sénégal. Bonsoir René.
Bonsoir Eric.
Claude Porcella est également avec nous. Il est journaliste. Bonsoir Claude.
Bonsoir Eric.
Alors, vous avez tous suivi l'acquittement d'un jeune homme blanc, Kyle Rittenhouse, qui avait tué deux personnes en marge de manifestations antiracistes en 2020 dans le Wisconsin. Il avait plaidé la légitime défense, assurant avoir tiré après avoir été pris en chasse et attaqué par ces trois hommes, tous blancs comme lui. Vous avez également suivi la condamnation de trois Américains blancs reconnus coupables du meurtre du jogger africain-américain Armand Arbery qu'ils avaient poursuivi puis abattu en février 2020 dans l'État de Géorgie. Marlene, les deux verdicts sont tombés au bout de deux procès qui ont passionné l'Amérique et une nouvelle fois souligné les fractures du pays sur les armes à feu et le mouvement Black Lives Matter.
Oui, oui, tout à fait. Et ces deux verdicts ont eu des répercussions tout à fait différentes. Lors du premier verdict, c'est-à-dire celui de Rittenhouse, il y a eu comme une espèce, enfin, dans le pays en général, une sorte de méfiance vis-à-vis des jugements portés dans ces cours, dans ces tribunaux, parce qu'on ne s'y attendait pas. On s'attendait au moins à une peine minimale. Tandis que dans le cas de Ahmaud Arbery, dans le cas des tueurs de Ahmaud Arbery, on a eu l'impression que enfin il y avait, on pouvait espérer une certaine justice dans le sud des États-Unis.
René Lec, d'abord votre réaction, vous vous trouvez à Dakar, est-ce que les deux procès ont suscité un intérêt quelconque dans l'opinion locale?
Oh, j'aurais du mal à vous dire, Eric, parce que je suis à Dakar que depuis deux ou trois jours, je n'y vis pas. Mais non, de ce que je lis de la presse locale, je ne crois pas qu'on en ait particulièrement parlé. Je pense que c'était une affaire américano-américaine. Et qui mettait en lumière ce que bon beaucoup considèrent, y compris le président de la République lui-même, Joe Biden, comme le racisme systémique qui existe dans le pays, et en particulier qui est illustré par le système judiciaire, qui lui-même est un système qui pose énormément de problèmes. Je lisais avant de préparer votre émission, Eric, tout à l'heure, un rapport des Nations Unies, 48% des condamnés à perpétuité aux États-Unis et aux très longues peines, 48% sont des Noirs. Les Noirs représentent 15% de la population. C'est absolument ahurissant et on n'a pas le sentiment qu'on évolue beaucoup. Et regardez sur le cas précis du procès de Rittenhouse, Kyle Rittenhouse, le jury n'était pas représentatif, les jurés n'étaient pas représentatifs de la communauté dans laquelle cet événement s'est déroulé à Kenosha, pour être précis. Le système d'autodéfense bénéficie souvent aux provocateurs. C'était le cas de Kyle, puisque celui qui est venu provoquer les manifestants. Et c'est exactement comme on a eu une situation identique en Floride avec George Zimmerman. Et en plus de ça, maintenant, vous aviez un juge qui était tout sauf impartial, qui a exigé que les victimes ne soient pas présentées comme des victimes, mais plutôt comme des émeutiers, des pilleurs. C'était tout simplement, il y avait quelque chose de tout simplement scandaleux dans ce procès.
Claude Porcella, a plusieurs vedettes comme la chanteuse Lady Gaga ou l'ancien footballeur américain Colin Kaepernick ont dénoncé le verdict dans l'acquittement de Kyle Rittenhouse. Et des marches de protestation ont également eu lieu dans plusieurs villes américaines, notamment à New York, où des manifestants se revendiquant du mouvement Black Lives Matter, proclamaient sur leur banderole, je cite, « Arrêtez la guerre contre l'Amérique noire, combattez le pouvoir blanc ». Le fossé racial persiste, est-ce qu'il est très réel?
Oui, non, c'est certain, on a un système à deux niveaux, hein, à deux vitesses. Ça a été prouvé dans la différence dans les verdicts des deux procès. Je partage pas tout à fait les critiques peut-être excessives de René Lecq, parce que il faut tout de même reconnaître, et là je parle du procès d'Arbory, il faut tout de même reconnaître que des progrès ont été accomplis. Le procès a eu lieu en Géorgie avec un jury à majorité blanche. Il y avait simplement un seul noir dans le jury. Et tout de même, dans ce cas-là, au moins, justice a été rendue. Et cela marque tout de même un pas en avant qui a été souligné d'ailleurs par tous les Afro-Américains. En ce qui concerne le procès de Rittenhouse, c'était essentiellement peut-être un procès plus politique que judiciaire, en ce sens que Rittenhouse avait été pris en main, si je puis dire, un peu même malgré lui, par l'extrême droite. C'est l'ultra-droite qui a payé son procès et qui lui a donc fourni les meilleurs avocats possibles face à un procureur qui n'a pas fait tout à fait le poids et que, comme le disait René tout à l'heure, qui a été à maintes fois rabroué, sans doute excessivement, par le juge.
Justement, dans le procès, il ne suffit pas d'avoir raison, il faut convaincre. De nombreuses questions se posaient justement sur l'impartialité des jurés. Claude Porcella vient de le souligner. Il y a eu condamnation dans un procès, il y a eu acquittement dans l'autre. René, est-ce que les deux verdicts ne prouvent pas que le système du jury fonctionne finalement?
Oh, je ne sais pas si je le dirais comme ça, parce que, et ça répond en partie à ce que Claude disait tout à l'heure, c'est vrai que le deuxième procès, lui, une véritable justice a été rendue, mais à quel coût? Faut pas oublier que moi je parle du système, je suis pas là dans des analyses d'attitude individuelle des différents jurés. Le système lui-même n'est pas un système qui fonctionne. Parce que je vous rappelle que en Géorgie, dans le cas d'Ahmaud Arbery, il y a eu deux procureurs généraux avant le troisième qui ont refusé même d'arrêter les assassins. Dans un premier temps, non seulement ils ne l'ont pas arrêté, mais ils ont considéré qu'il n'y avait aucune raison de le poursuivre. Dans un deuxième temps, le second procureur qui est arrivé, donc le ministère public, a dit au fond, et là la vidéo était déjà sortie, malgré la vidéo, a décidé de ne pas les poursuivre. C'est le cas, la troisième tentative, donc l'insistance notamment de la maire de Arbery et de la communauté noire locale, mais également nationale, que finalement, ils ont été poursuivis et que bon, le résultat a été un résultat, somme toute, de justice. Donc, on ne peut pas dire que la situation aujourd'hui aux États-Unis est la même qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Ça, c'est une évidence. Mais de dire que le système lui-même fonctionne, non, le système ne fonctionne pas. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Ce n'est pas parce que, bon, on est arrivé. C'est vrai que, bon, dans ce genre de situation, on arrive à ce que, bon, justice soit rendue, mais ce n'est pas systématique. La question, c'est de régler ces types de problèmes de manière systématique. On en est loin, malheureusement, Eric.
Marlene, est-ce que le système fonctionne?
Non, le système ne fonctionne pas. Il n'a pas fonctionné auparavant et il ne fonctionne toujours pas. Et comme le disait René auparavant, on n'a qu'à voir le nombre le taux d'emprisonnement des Noirs et des Latinos aux États-Unis. Chez les Noirs, 48%, c'est énorme. Et quand on examine le système cas par cas et qu'on regarde exactement comment un détenu américain noir est jugé comparativement à un détenu blanc pour les mêmes exactions, pour les mêmes crimes, il y a une différence énorme. Donc jusqu'à maintenant, la population noire ne se sent pas en sécurité dans son propre pays et chacun sait que quand son enfant noir quitte la maison, on lui fait beaucoup plus de recommandations qu'un enfant blanc, par exemple. Moi, je vois chez mes neveux et nièces, on leur fait tout le temps la morale en leur disant, écoutez, vous, on ne va pas vous juger de la même manière qu'un enfant blanc. Donc, quand vous quittez la maison, faites attention. Si, par exemple, votre petit camarade qui est blanc vous dit, on va faire telle chose qui est un petit peu, qui sort de l'ordinaire et qui n'est pas conforme aux lois, surtout, ne le suivez pas. Toute mère, tout père de famille aux États-Unis noir a cette conversation avec son enfant. Et dans la population blanche, on n'a pas ces mêmes contraintes, on n'a pas ces mêmes préoccupations. Donc, de toute évidence, le système ne fonctionne pas.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'émission, c'est l'Amérique et vous. On parle de la dimension raciale dans l'affaire de deux drames ici aux États-Unis qui avaient alimenter les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020 dans tout le pays. Marlene Sefocle de Howard University, René Lec, analyste politique, Claude Porcella, journaliste, et ce sont nos invités. René Lec, le président Joe Biden s'est dit inquiet et en colère tout en demandant aux Américains de respecter la décision de justice dans l'acquittement de Kyle Rittenhouse. Dans l'autre procès, M. Biden a aussitôt salué le verdict tout en reconnaissant que beaucoup de travail restait à faire avant de parvenir à l'égalité raciale. Quelle lecture faites-vous des propos du locataire de la Maison-Blanche?
Écoutez, moi je crois que ce sont des propos de bon sens, hein, on est dans l'évidence là, à ce niveau, par rapport à la caractérisation du procès, du verdict de Kyle Rittenhouse. Mais il faudrait rajouter aussi une autre dimension, parce que, et c'est là où il y a une certaine complexité qu'il ne faudrait peut-être pas ignorer. Au-delà de la question raciale dans le cas d'espèce, il y a aussi toute la question du contrôle des armes. Donc ça, il y avait un double enjeu. Et parfois même, on peut se demander, moi personnellement, bon là c'est parce qu'on parle de race, mais personnellement, si on était dans une conversation uniquement sur ce procès, j'ai le sentiment que le deuxième aspect, donc la question du port d'armes, de l'arme aux États-Unis, était la question même la plus importante en dernier ressort dans ce procès-là. Et que le lobby de l'armement a été certainement, c'est vrai que les white supremacists, les suprémacistes blancs étaient fort heureux du verdict, mais je peux vous garantir que les gens de la NRA et leurs supporters, eux aussi l'étaient aussi et peut-être même un peu plus. Parce que c'est toute la question de la circulation des armes. Peut-on autoriser des gens dans des États où le port d'armes est autorisé, peuvent-ils venir avec des armes à des manifestations, avec tous les dangers que cela peut représenter. Donc il y avait tout cet aspect-là qui était également en jeu, et de toute évidence, tous les supporters de la NRA et tous les gens qui sont favorables au port d'armes dans toutes les conditions, en toute situation, ont certainement accueilli le verdict avec une grande joie.
Claude, votre commentaire par rapport à l'attitude de Joe Biden vis-à-vis de ces deux verdicts?
Bien, écoutez, sa première réaction, c'est de dire, contrairement à ce que Marilyn et René viennent de déclarer, que le système fonctionne à ses yeux, ce qui avait d'ailleurs irrité la communauté afro-américaine. Mais après, il est revenu dans une seconde déclaration pour dire combien il était mécontent, en colère. Là, je parle bien sûr du procès Rittenhouse. Le président Biden est un bon démocrate et il est évident qu'il s'est fort réjoui du verdict du second procès. En ce qui concerne les armes, effectivement, et René a bien fait de le souligner, c'est un grave problème, mais qui sera lui peut-être encore plus difficile à résoudre que celui de la justice raciale. Hein. Le second amendement est sacro-saint aux yeux de certains, et c'est une aberration, mais elle est là et il va falloir continuer de vivre avec elle. On en a eu un nouvel exemple il y a quelques jours avec cette fusillade dans une école du Michigan où un garçon de 15 ans a tué un certain nombre de ses condisciples, et ses parents avaient acheté une arme 4 jours plus tôt. Donc c'est une situation extrêmement grave, mais c'est dramatique, mais malheureusement je suis pas très optimiste sur un changement immédiat, même si là encore il y a certains progrès d'accompli, et on voit que la NRA, le lobby des armes, est tout de même beaucoup plus discret qu'il l'était dans le passé. Ceci dit, il reste une puissance politique car il continue de financer un grand nombre de parlementaires, du moins leur campagne.
Il y a eu un lobby pro-armes qui a également promis sur Twitter d'offrir un fusil à R15 que Kyle Rittenhouse a utilisé, et que on va lui donner ça en récompense pour sa défense du droit d'être armé en Amérique. C'est un problème qui s'oppose. Marlene, on voit une question raciale dans ces procès, mais c'est aussi une question qui a beaucoup d'impact au niveau politique. On voit qu'il y a beaucoup de récupération politique entre les républicains et les démocrates.
Absolument, il y a eu énorme récupération politique côté Rittenhouse, du côté surtout des républicains. Il y a eu cette émission de Tucker Carlson à laquelle Rittenhouse s'est volontiers prêté, parce que là il n'y a pas eu de coercion, il était tout à fait d'accord avec, il semble épouser aussi les mêmes idées suprémacistes de Tucker Carlson. Donc si vous voulez, il y a eu récupération, mais venant de la part de jeunes qui s'est laissé embobiné, mené par la droite, par l'extrême droite. Donc, ils ont payé son procès, ils ont payé ses avocats, et il le leur a bien rendu, si vous voulez, parce qu'il s'est présenté à cette émission où il ne montrait vraiment aucun remords. Donc, ça a dû être extrêmement pénible pour les familles qui ont perdu, qui ont été les victimes de ce meurtre, de ce double meurtre. Donc, il y a eu évidemment récupération.
Claude Porcella, la presse américaine a largement couvert ces deux affaires, la presse internationale également. Vous êtes journaliste, avez-vous senti un problème dans le traitement de l'information qui pourrait dérouter, manipuler ou désinformer l'opinion publique?
Bien, écoutez, le fait que les deux procès ont été transmis en direct, je crois, était une bonne leçon de civisme pour les Américains. Et ce qu'il faut noter tout de même, c'est que dans les deux cas, l'acquittement d'un côté, la condamnation de l'autre, le témoin principal a été une vidéo. Parce que si Rittenhouse a été acquitté, c'est parce que on a produit vers la fin du procès une vidéo qui n'avait jamais été montrée, et qui semble indiquer que Rittenhouse avait certaines raisons de tirer, parce qu'il était menacé ou que l'une de ses victimes s'était emparée de son arme. Dans le deuxième cas, alors là, c'est l'un des accusés lui-même qui a fourni à l'accusation son arme principale, avec une vidéo qui montrait exactement que Arbery avait absolument jamais n'avait pas d'arme, d'une part, et qu'il avait été de façon très très claire, très très distincte, il avait été attaqué, Et donc, c'est ce qui a prouvé que les trois hommes étaient coupables. Mais tout ça pour dire combien la technologie moderne et la vidéo jouent dans l'accomplissement de la justice. Et rappelez-vous les images dramatiques, tragiques du policier qui a mis son genou sur le cou de George Floyd. Donc c'est un facteur nouveau dans la justice.
Hein. René, pensez-vous que la presse américaine joue son rôle pour, disons, aider le public à comprendre la vérité ou à connaître la vérité?
Ah oui, moi je pense que la presse américaine est absolument exemplaire. C'est, de mon point de vue, c'est la meilleure presse au monde. Bien entendu, ça c'est une appréciation générale. Hein. Si on rentre dans la complexité, il y a des tas de choses à dire. On ne peut pas comparer Fox avec le New York Times ou le Washington Post ou CNN ou même des journaux un peu plus à droite comme le Wall Street Journal. Tout ça, il y a à boire et à manger. Mais globalement, la presse américaine est une excellente presse et je pense a toujours historiquement joué un rôle d'investigation, d'information qui a été déterminant dans tous les combats sociaux, que ce soit les combats pour les femmes, les combats sur les questions de droits civiques, etc. et continue de le faire. Je pense de le faire de manière tout à fait remarquable. Donc je crois que il y a là plutôt moi en ce qui me concerne, je m'en fais félicite plutôt. Maintenant qu'il y ait de plus en plus, qu'on sente de plus en plus une sorte de politisation de la justice, qu'on sente une sorte de politisation de la démocratie, que l'on sent que se développe maintenant, il y a presque une acceptance du vigilantisme, parce qu'au fond c'est un peu ça, hein, que ce soit lui comme Zimmerman et d'autres cas que l'on voit à la frontière sud des États-Unis, de plus en plus l'extrême droite s'arme et joue pratiquement un rôle de police locale et notamment dans, et ça rappelle un peu historiquement, Marilyn est une historienne en partie en tout cas, ça rappelle un peu ce qui se passait à l'époque avec les esclaves et c'est bien le lien que les gens font, y compris entre parenthèses Eric, dans le procès de Ahmaud Arbery, je rappelle à vos auditeurs que l'avocate des accusés a fait référence aux ongles sales des orteils d'Ahmaud Arbery, une sorte de déshumanisation de la victime. Ça rappelle les méthodes qui ont été utilisées pendant très très longtemps dans le système judiciaire américain pour déshumaniser les noirs. Donc bon, tout ça, ce sont des réalités. Mais bon, globalement, de mon point de vue en tout cas, les choses vont dans le bon sens de l'histoire. Et je crois que la presse joue un rôle déterminant dans ce mouvement.
Marilyn, je vais terminer avec vous. Vous avez souligné tout à l'heure la récupération politique. Est-ce que parfois la presse américaine ne tombe pas dans ce piège politique?
Alors évidemment, comme l'a mentionné René auparavant, cela dépend de la presse. Certaines presses, évidemment, récupèrent de façon politique tranchée, de façon politique et de façon très tranchée, une affaire telle que celle de Rittenhouse. Et cela a été démontré à travers Fox, par exemple. Mais de façon générale, la récupération politique, si vous voulez, aura toujours lieu. Qu'il s'agisse de récupération politique à gauche ou à droite, ça c'est un fait. Mais je pense que dans ces deux affaires, dans l'affaire de Rittenhouse et dans l'affaire d'Ahmaud Arbery, la presse a joué son rôle, c'est-à-dire le rôle d'informer le public. Et donc le public a pu suivre pas à pas ces deux procès et en venir à ses propres conclusions.
Nous arrivons au terme de cette édition de L'Amérique et vous, consacrée à la dimension raciale dans l'affaire de deux drames ici aux États-Unis qui avaient alimenté les grandes manifestations antiracistes de l'été 2020 dans tout le pays. Merci à nos invités, Marilyn Sefocle, professeur à Howard University. Merci.
Merci.
Merci à René Leck, analyste politique.
Je vous en prie, Eric. Au revoir.
Merci à Claude Porcella, vous êtes journaliste.
Merci Eric, toujours un plaisir.
Lionel Lunanila Gahima a assuré la mise en onde, Eric Manilakis à la présentation. Excellent week-end à vous tous et à la prochaine.